Et merci, c'était pas allumé, merci que je vous l'accorde. Au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître, Urbi, comme Urbi, sans publicité ni sponsor. Alors, pour vos cartes d'auditeurs, vos cartes de soutien, la solution c'est d'aller 145 rue Almelot dans le 11e arrondissement. C'est une très bonne librairie ouverte du mardi au samedi à partir de 13h. C'est une très belle librairie avec des libraires très, très consciencieux. Et dans l'arrière-boutique, il y a. C'est une très belle salle, une très belle salle voûtée. Il y a des livres à 1 euro. Et c'est là que j'ai trouvé. C'est là que j'ai trouvé le Déjeuner sur elle, Jacques Coda, 1 euro. Hein, et j'ai lu ça, c'est un livre cannibale, et qui recouvre quasiment toute l'œuvre de Jacques Coda, parce qu'on s'aperçoit qu'au niveau du corps, même dans le livre qu'il a publié chez Caméra, Gréco et autres textes, Jacques Coda, Marest Édition, il nous met en garde en disant « J'ai toujours regardé la peinture comme l'expression d'une digestion ».
Ce qui est vrai, bien sûr.
Mon atelier ressemble à une cuisine. Il ressemble aussi à celui d'Horacio Diaz, le peintre amant de Tristana dans le film éponyme de Buñuel, tourné à Tolède. Voilà, on est en plein dans la matière. Voilà.
Hein, j'allais ajouter un adjectif qui n'aurait peut-être.
Voilà, on est bien sur Onde de choc, par conséquent. L'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris Pierre-Julien Marest, éditeur, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités, hein, parce qu'avec M. Jacques Coda, c'est quand même pas facile. Moi, je suis lecteur et c'est pas du tout aisé. Je crois que j'ai dit que c'est un auteur douteux hors antenne.
Pire que ça.
J'ai noté
et ça sera...
Voilà, vous avez souffert. Il y a deux livres que publiés. Un qui est dans le commerce, c'est lequel ?
Alors, Les 10 meilleurs films de tous les temps, c'est dans le commerce, c'est paru en 2007.
2007, de Luc Chomara.
Voilà, et celui qui vient de paraître, c'est l'invention du cinéma.
Du cinéma. Voilà,
et qui est du même auteur.
Qui n'est pas encore dans le
commerce. Qui est paru jeudi dernier.
Alors, ce sont deux livres très agréables au niveau du format. Alors, monsieur, sachez une chose, que pour qui fait une émission neuve, c'est très élégant de faire des livres sans pagination. C'est très bien, mais pour celui qui fait une émission de radio qui doit se référer, c'est très difficile.
C'est exactement ça, qu'on l'a fait. C'est pour vous embêter.
C'est pour emmerder
l'animateur de radio.
Voilà. Donc je vous présente aussi Monique à la technique depuis tant et tant d'années. Alors, je vais vous dire quand même. Monique a, voici quelques 15 jours, je crois, a assuré entièrement toute la technique sur les 40 ans de Radio Libertaire. C'est pas mal, 40 ans de Radio Libertaire. Elle a été parfaite. Parfaite à la technique, de l'exactitude, tout ce qu'on voudra. Le samedi passe très bien. Arrive le dimanche, et à mon œil, il y a un groupe qui passe. Le groupe Nout, N-O-U-T. Et Monique est plus habituée aux chansons à texte, etc., etc. Effectivement, et là, c'est la musique qui va nous suivre pendant toute l'émission, comme ça. Il y a une flûte, une harpe, des drums, et puis ça dégage. Et là, on a craint pour la vie de Monique. On a craint. Mais elle a résisté. Monique résiste à tout. Et le soir, vers 16h30, il a fallu l'exfiltrer. On l'a exfiltré, on lui a offert un voyage aux Bahamas. Elle est partie trois semaines. Elle est revenue spécialement pour Onde de choc, pour toi.
Elle est bronzée,
elle est magnifique, elle est revenue spécialement pour toi, Jacques Coda.
Dorée, on dirait du pain
d'épices. Jacques Coda, elle est en pleine forme. Alors, surtout, tu ne la contraries pas. Tu ne confonds pas, parce que M. Coda, quand il vient ici, il fait du tam-tam avec la table. Tu ne la contraries pas.
Qu'avec la table.
Parce que là, elle est parfaite.
Bon.
Elle est absolument parfaite.
Comme d'habitude. Mais
attention, parce qu'on va passer Nout, et je crains le pire.
C'est quoi ce Nout ?
Voilà. Pierre-Julien, bonjour. C'est un plaisir, parce que là, on va parler. J'avais déjà malheureusement reçu M. Jacques Coda. On n'avait pas eu le temps de plonger dans la caméra Gréco et autres textes, comme ça. C'est un texte difficile. Un texte difficile, hein.
Oui, je dirais pas difficile. C'est un texte. L'adjectif exact me vient, je dirais pointu. Oui.
Initié.
Voilà, pour amoureux du cinéma, voilà. et de la peinture.
Voilà. Et on va parler de deux livres, les 10 meilleurs films de tous les temps de Luc Chomara.
Oui.
Il est paru, celui-là ?
Voilà, celui-là est paru en 2017. Et de la même manière, on pourrait dire que c'est un livre qui, comme son titre ne l'indique pas, ça s'adresse aux amateurs de Zou et de Tarkovski, donc deux cinéastes.
Là, on va pas être tout à on va, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. On va le décortiquer ensemble. Hein, on va décortiquer ensemble. Et là, j'ai une petite. Un petit recul. D'accord, on le fera tout à l'heure ?
Bien sûr.
D'accord. Par contre, c'est l'invention du cinéma, donc aux éditions Marest. Et alors, dès la couverture, magnifique, c'est Méliès. Un magicien, Méliès.
Oui.
Un magicien, on ne peut pas. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire ? L'invention du cinéma, on lit en dessous, édition Marest édition. Et ça veut dire quoi ? Épreuve non corrigée.
Alors, épreuve non corrigée, c'est simplement que ce sont des. C'est un livre que j'ai fait fabriquer en amont de la publication pour le distribuer largement avant publication. Et c'est des épreuves non corrigées qui sont en fait. C'est, si vous voulez, c'est un état du texte avant son dernier état qui est
Et qu'est-ce qui va être corrigé dedans par conséquent ?
Les quelques coquilles qui étaient restées.
Typographiques ?
Voilà, typographiques.
D'accord, et
voilà.
C'est pas le sens du texte ?
Non.
C'est pas le sens du texte. Voilà. Parce qu'on apprend des choses. Moi, on va y revenir ça va être le fil rouge de notre émission. On va revenir. Moi, j'apprends des choses par rapport à l'histoire du cinéma.
Oui.
Comme vous et Monsieur Kodak. Et même Monsieur Kodak. Les Frères Lumière ont inventé le cinéma. Les Edison est là. Et il y a un nom qui intervient, c'est nommé Le Prince. Mm-hmm. Vous connaissiez Le Prince, vous ?
Alors, j'avais déjà lu à son sujet.
On va y revenir.
Mais effectivement, oui, le prince, c'est pas le premier nom.
Qui c'est le prince?
Il a un prénom impossible. Pierre-Auguste.
Oui, j'ai tout ça. Je n'avais jamais. Et heureusement, l'auteur dit à un moment donné, l'auteur rentre chez lui, il dit à son fils : Oh, c'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma. Et le gosse, je sais pas qui l'a dit. Il dit : Mais tu déconnes ? Il dit : C'est le prince.
Eh bien, on peut arriver. C'est d'une certaine manière le même humour qui est dans l'autre ouvrage, les 10 meilleurs films de tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire dresser une liste des 10 meilleurs films de tous les temps? Est-ce que c'est possible, impossible ou pas? Qui a inventé le cinéma? Parce que maintenant, il y a d'autres gens qui pourraient vous dire oui, mais non. Le cinéma en tant que technique, il a été inventé, ou en tout cas, il a été breveté par les Frères Lumière. Mais le cinéma en tant qu'art, il n'a pas été inventé ni par les Lumières, ni par Méliès, mais par Alice Guy. Évidemment, la Chomara sort de son chapeau, c'est le prince.
Ne tapez pas sur la table, monsieur. Ne prenez pas l'exemple de monsieur Kodak.
Je fais du tam-tam comme monsieur.
Vous voyez la lumière que vous voyez en cabine, là?
Oui, je me fais gronder. L'œil de Moscou est en cabine. Donc, oui, qui a inventé le cinéma d'une certaine manière, le livre commence un petit peu comme ça, comme une guéguerre franco-américaine entre Edison et les Lumières. Il y a ce Le Prince, mais il y a aussi.
Est-ce que vous connaissiez avant qu'il publie le livre ?
Non, enfin, j'avais lu.
J'en ai entendu parler, mais très, très, très vaguement.
Voilà, il y a 5 ans, par curiosité ou par geekisme, je m'étais amusé à chercher qui a vraiment inventé le cinéma. J'avais passé une heure sur Wikipédia et j'étais tombé sur ce nom-là.
Pareil. Il existe ou pas, celui-là ?
Ah oui, il existe.
D'accord.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a inventé ?
Alors, qu'est-ce qu'il a inventé exactement ? Là, j'ai un trou de mémoire.
C'est très difficile parce qu'on voit, il a un procédé, il disparaît. C'est un type qui disparaît.
Voilà, c'est ça. Il disparaît à bord d'un train. donc évidemment, ça c'est à bord d'un train et comme notre chômarade, les trains, c'est déjà très cinématographique. Hein, le premier film, quand même, l'histoire du cinéma. On voit un train. Et puis les trains, il y en a chez Hitchcock, il y en a chez partout, il y en a partout. Et oui, est-ce que c'est lié au Covid ? Alors ça, le Chomara ne le dit pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un complot des Frères Lumière contre... On ne sait pas.
C'est ça, il sous-tend ça.
Il ne le sous-tend pas, mais si on lisait entre les lignes...
On va revenir sur le sujet. Alors, je vais vous faire un aveu, puisqu'on est ensemble, on se connaît légèrement, et puis malheureusement, je connais M. Conan.
C'est réciproque.
Il me suis refusé... Alors, on plein dans le sujet, rassurez-vous sur le cinéma. Je me suis refusé, depuis l'Ukraine, à faire des émissions en direct. Tout simplement parce qu'il y avait une dérision pour moi. Tout simplement aussi parce que je me suis fait avoir, je vous l'avoue, par l'écran. par l'écran. J'ai regardé tous ces films, toutes ces images, j'aime bien dire tous ces films, et tu vas voir, Jacques, pourquoi je te dis ça. Toutes ces images, et je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec le cinéma? Et je me suis retrouvé avec le livre, parce que c'est une suite d'émissions que je voulais faire, et en particulier avec F.J. Ossang. Je ne sais pas si vous connaissez Ossang. Vous connaissez Ossang, monsieur Kadam? Non. Voilà. Il a publié un livre qui s'appelle Mercure Insolent. On doit faire une émission sur le cinéma. Et il dit, à un moment donné, en quatrième de couverture, il dit, les films sont des faits. Ils deviennent incontournables dès lors qu'on les voit. Après eux, rien n'est plus semblable dans chacun de nos cellules. Ce sont des transformateurs semblables autant que des accumulateurs magnétisants d'énergie possible. Et voilà. Et donc, j'ai vu toutes ces images sur l'Ukraine. Et je me suis interrogé par rapport à où en était le cinéma. Est-ce qu'une fiction était encore décemment possible d'une fiction? C'est pas de la mauvaise foi totale, hein. C'est pas de la mauvaise foi du tout. Mais je me suis dit, tiens, la fameuse formule, la réalité dépasse la fiction, mais est-ce que c'est pas la fiction qui dépasse la fiction? Et pour me corroborer dans ce que je vous raconte là-dedans, au niveau politique, au niveau historique et tout ce que vous voudrez, hier, il y a un type qui passe, je sais plus sur quelle chaîne, sur son téléphone portable, il se filme. Une gueule patibulaire, une gueule d'aventurier. Brando, dans son film Apocalypse Now, ne fait pas mieux. Il filme son copain qui court avec une Kalachnikov. On entend les voix précisément. Tout est dans le film. Et on se demande ce que Coppola pourrait faire de mieux. Et là, M. Coda a eu, pour une fois, une présence d'esprit. Il cite, tu as la phrase que tu as citée dans ton livre.
Laquelle? Rappelle-moi.
Je vais te dire. Caméra Gréco, sur la phrase de Jean Eustache. Jean Eustache dit à un moment donné, le cinéma...
C'est simple, c'est ça.
Le cinéma, c'est une chose simple, ouais, très ça. Simple. Ouais. Dès que la caméra tourne, c'est le cinéma. Est-ce qu'on n'est pas là, Pierre? Est-ce qu'on n'est pas là dans une dimension, là, qui dépasse le cinéma?
Alors, c'est une vaste question.
C'est pour ça que tu es sur Radio Libertaire 89.
Voilà, il y a chez Umberto Eco, il y a des... Il y a tout ce qui va tourner autour, même chez Borges, tout ce qui va tourner autour de l'hyper-réalité. Dans un bouquin de Umberto Eco, il se demande ce que le cinéma, en fait, n'est pas la nouvelle réalité, et tout ce qui tourne, ce qui est tourné, les films qui nous viennent d'Hollywood, c'est pas ça la réalité. Et Hollywood, avec tout son caractère factice, la ville Hollywood, et par exemple, je sais pas, dans les années 30, les délires de la MGM, qui font refaire toutes les femmes, qui font refaire le nez, tout ça pour qu'elles aient l'air, et qui deviennent donc des femmes fausses et qui deviennent la réalité de voilà toutes les théories de l'hyper-réalité. Bah oui, elles amènent où est la fiction ou la réalité, on sait plus trop. En tout cas, ce qui est certain, ce qui est drôle, c'est que je disais un article il y a peu qui disait que apparemment le langage des complotistes qui a été pas mal réveillé, enfin certains complotistes, qui a été pas mal réveillé par les confinements, etc. Et ben c'est un langage qu'on retrouverait très facilement dans une critique de l'attitude russe pendant le conflit actuel en Ukraine. Et il y a une partie de la population, moi pendant le confinement j'ai perdu quelques amis qui pour moi sont partis de l'autre côté du côté obscur, comme dirait Chomara. C'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à parler ensemble. Eux, ils étaient persuadés que le monde était devenu un vaste complot.
Une vaste illusion.
Une vaste illusion, voilà, et que c'était la... que c'était que voilà que faire part. Alors, avec tout le fait qu'effectivement on peut dire symboliquement nous faire porter des masques et tout ça, que ça soit choquant d'un point de vue
est-ce qu'on nous sommes pas des illusions, nous qui avons reçu une illusion supérieure?
C'est dans Descartes là.
Oui, bien sûr. Mais tu vois, on se dit tu parce qu'on se connaît.
Oui, bien sûr.
Voilà, je dis même tu à Monique de temps en temps, mais c'est pas souvent.
C'est vrai.
Mais bon, oui. je veux dire, j'ai un ami qui s'appelle Guy Benoît. Je sais pas si vous connaissez Guy Benoît. Guy Benoît avait comme profession veilleur de nuit au musée Bourdelle. C'était un cinéphile. Il sortait du cinéma, il sortait de son boulot, il allait au cinéma, il était très beau, etc. Il a écrit des textes très lucides, très pertinents, tout ce qu'on voulait. Et un jour, il a écrit une phrase terrible dans un de ses livres, et je me suis dit, mais comment mon ami peut écrire une phrase aussi con que ça? Il a écrit cette phrase, je ne pleure plus qu'au cinéma. J'ai dit, mais il t'abrutit, mais qu'est-ce qu'il y a après d'écrire une phrase comme ça? Et je me suis aperçu, avec tout ce qu'on vit actuellement, que si jamais nous sommes des illusions, nous ne pleurons plus, nous allons finir par pleurer qu'au cinéma. Nous vivons là-dedans.
Ce qui est certain, en tout cas, ça date des... Ce serait intéressant de savoir combien de temps on passe en moyenne sur les réseaux sociaux, qui est quand même le royaume de l'illusion. On croit où les autres ne montrent que ce qu'ils veulent d'eux, où ils montrent des images, où des philosophes aussi brillantes que Nabila peuvent dire « je suis mon propre média », ce qui est en même temps très vrai.
Oui, ça allait, son propre sûr, média. Mais en même temps, c'est énorme, c'est magnifique.
Et elle a l'envie de sa gestion d'Instagram. Et il y a évidemment les Kardashians, etc., où des gens sont devenus leurs propres médias, médias complètement vides de tout. Et combien de gens consomment ça à longueur de journée, Instagram, Facebook, et pensent que c'est la réalité alors que tout est complètement...
Mais Pierre, et puis surtout toi, prends tes responsabilités, Jacques Brune. À quel moment commence le cinéma maintenant?
Déjà, ce que tu dis de la réalité et de la fiction, Proust disait la même chose, disait que la réalité, du moins la littérature l'emportait sur la vie. Hein. Pour lui, la réalité, c'était l'écriture. La vie n'était qu'un modèle. Hein, et ce qu'il vérifiait, c'est-à-dire que sa recherche, en fin de compte, il l'a vécu après coup. Bon, ensuite, où commence le cinéma? Dès qu'effectivement une caméra est allumée, hein, un documentaire, c'est une fiction. C'est un effet de la réalité, mais c'est un effet.
Les réseaux sociaux sont du cinéma ou pas?
Non, c'est pas du cinéma. Ça dépend ce qu'on entend par cinéma.
Non, je dirais que c'est un média. Je dirais pas que c'est du cinéma. C'est un média. Mais le cinéma...
Le cinéma, c'est le cinéma pour faire une tautologie brillante et intelligente.
C'est bien.
C'est autre chose. Dans le cinéma, il y a encore du langage. Même dans le plus pauvre des cinémas, il y a une forme de langage.
C'est le mot exact. C'est la différence entre un langage, avec un langage et un non-langage. J'ai dans mes relations une dame qui a 95 ans, qui passe son temps attendant la mort, c'est comme ça, en regardant des films sur un immense écran, parce qu'elle ne va pas très bien clair, sur M6 ou TMC. Et elle regarde ces films, des histoires à la con, des histoires d'amour, des histoires des gros plans, il n'y a rien qui appartient à
ce qu'on appelle le cinéma.
Qui appartient au cinéma. Bon. On arrête là, histoire de la bouche, je te quitte, tu me quittes, tu me tues, tu me tues, c'est affreux, tout le monde est beau là-dedans. Et par hasard, un soir, elle regarde, pour moi, ce qui est un chef-d'œuvre, c'est Pépé le Moko. Vous l'avez vu, Pépé le Moko?
Oui.
Pour moi, qui est un chef-d'œuvre, qui m'apparaît extrêmement moderne, c'est-à-dire avec des plans, des disons, histoire d'amour magnifique.
Jacques Aumont n'est pas de ton avis, mais bon.
Tu n'aimes pas?
Tu me diras. Non, moi j'aime bien, mais effectivement.
Tu me diras après.
La Casbah, tout ça, c'est un peu.
Et à un moment, elle me dit. Oui, bien sûr, on en parle après. Ouais. Et après, à un moment, elle me dit que M6, TMC, ça va. Ça va, c'est-à-dire que son esprit est construit comme ça, mais elle qui a Pépé Moko est tournée en 37, hein, 37, c'est-à-dire 5 ans ou 6 ans avant la naissance de cette dame, elle me dit, oui, mais je ne peux pas regarder, c'est vieux. C'est-à-dire qu'on nous a habitués à des images, à des attitudes cinématographiques qui correspondent, qui nous rassurent.
C'est la phrase de Godard qui dit, il y a des vieux films, on ne dit pas il y a des vieux romans. Mais effectivement, c'est parce qu'il y a la réalité donnée dans l'image. Donc effectivement, ça vieillit, les voitures ne sont pas les mêmes, les tenues vestimentaires ne sont pas les mêmes, l'architecture des villes sont différentes. Là, en plus, dans Pépé le Moko, il y a un peu de colonialisme qui a peut-être disparu, je ne dis pas qu'il a complètement disparu. Donc il y a des choses qui ont vieilli, qui ont changé au moins, et qui ont au moins changé. Alors dans le temps, effectivement, on peut traduire ça par un vieillissement, oui.
Les plans sont très beaux, par exemple.
Ah oui,
les
plans, c'est un très beau film, oui.
Mais je veux dire,
Jean Gabin est merveilleux.
Oui. Mais je veux dire, si tu regardes, il y a une scène d'amour où il y a Jean Gabin et penché sur Mireille Balin. C'est Mireille Balin, je pense,
oui,
je pense comme ça.
Qui aura un destin tragique,
là, par rapport à ce qu'on joue actuellement, on est en plein dans le sujet, Pierre. Il joue faux. Il lui fait une déclaration d'amour, mais on s'aperçoit qu'il joue faux. Alors, on arrive au mot faux, F-A-U-X. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend n'importe quel connard qui a fait 3 ans de conservatoire ou 5 ans de conservatoire, il va jouer juste. On arrive au problème de la réalité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai?
C'est le problème de. C'est,
voilà, on est en plein dedans, c'est Godard.
C'est le cinéma de Bresson aussi.
Bien
ou,
sûr.
Ou de Romer qui donne à ses acteurs une espèce. Ça ressemble à du théâtre, par exemple, Romer. Et ça ressemble aussi à des sitcoms, Romer, à la fois. Donc là, c'est compliqué. Qu'est-ce que la réalité? Oui.
On est en plein dedans.
C'est le cinéma, la réalité, point barre.
Voilà, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que mon ami qui a écrit Je ne pleure plus qu'au cinéma, il pleure de la réalité. Guy Benoît.
Il pleure sur lui-même.
Effectivement, si. Oui, non, mais qu'est-ce que. C'est terrible, mais je pleure plus fréquemment devant
mais
des.
Mais je
devant
le savais,
films,
c'est pour ça que tu es là aujourd'hui.
Des films
mais bien sûr,
devant
bah moi
les
aussi.
Actualités.
Mais moi aussi, mais bien sûr.
Demi, pendant les Demoiselles de Rochefort me font chialer à tout coup.
Bien sûr, c'est magnifique.
Non, et les parapluies de Cherbourg, pardon, les deux. Mais surtout les parapluies de Cherbourg.
Tu pourras revenir sur Radio Libertaire parce que c'est évident. Alors, je raconte une histoire vite fait et puis après on va écouter un peu de musique parce que je voudrais que Monique, elle explose dans le temps et dans l'espace. Moi, il m'est arrivé, alors, bien avant qu'on prévoie cette émission, avant l'Ukraine, c'est pour ça que je voulais faire cette émission et je ferai avec Ossang après, il m'est arrivé deux petites choses par rapport au cinéma. La première chose, je crois que je te l'ai raconté, Pierre, j'erre dans le Père Lachaise et un jour je tombe sur la tombe d'Anna Karina. Et elle est enterrée avec un type que je ne connais pas. Et je me sens mal. Je dis, c'est pas possible que cette femme qui est morte, elle a le droit de mourir, soit enterrée avec un type que je ne connais pas. Elle a le droit d'être enterrée avec un type que je ne connais pas, mais elle devait être enterrée avec Godard. Parce que c'est Godard.
Ou
c'est
avec toi, à la limite.
Mais je lui ai dit, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Godard, c'est Pierrot le fou, c'est à bout de souffle, c'est la liberté absolue, non?
Oui.
C'est la liberté absolue. Et je vais vous demander à tous les deux, Docteur Freud, qu'est-ce qui se passe? Il s'est trouvé une deuxième scène de cinéma qui me vient dans le visage. C'est Arletty. Vous connaissez tous Arletty qui se promène dans les Enfants du Paradis, la rencontre de Frédéric Lemaître et elle dit à un moment donné cette fameuse phrase: Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un assez grand amour comme nous. Et il y a un con de critique, je n'ai pas noté son truc, qui note que le film est tourné en 1942. Et en 1942, Arletty avait pour amant un amant allemand.
Officier.
Et c'est pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était vraiment du système. Et le mec dit, ce con, si Pierre, tant que dans le cinéma, tu trouves son adresse, tu me la donnes, on réglera le problème hors antenne. Le mec dit, c'est absolument différent de dire que Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment dans un grand amour comme nous, lorsqu'on aime un type qui occupe Paris.
Ouais.
Vas-y.
Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est sans doute le genre de critique qui oublie qu'il devait quand même avoir un scénariste, dialoguiste et un réalisateur, ou un réalisateur en l'occurrence, et que donc, bon, c'était très rare que les actrices écrivent. Mae West écrive
un scénario.
Mais on ne peut pas.
Sa réflexion est bonne. Comment c'est possible? Voilà. Où est la réalité, où est l'illusion?
Oui, c'est là encore, c'était la question de Sainte-Beuve aussi. Hein. Qu'est-ce qui, sur la biographie des écrivains ou des cinéastes ou des acteurs, quoi. Qu'est-ce qui l'emporte? Est-ce que c'est leur biographie ou leur film, leur écriture, leur roman? Vaste sujet qui est toujours d'actualité aujourd'hui.
Mais une fois qu'on est passé par ce crétin de critique, là, si tu trouves son nom, tu me le trouves. Est-ce qu'on peut regarder la même phrase, savoir que cette femme qui dit cette phrase, même si elle est actrice, même si dans l'illusion ou dans le faux, est-ce que c'est la même phrase quand on ne le sait pas? Non, mais c'est idiot. Mais complètement idiot. Je te l'accorde, c'est complètement idiot. Ce qu'on va faire.
Non, mais il y a collusion entre sa vie privée et le film de.
Donc mon critique est idiot.
Oui, c'est un abruti.
Un abruti. Tu notes son nom.
Mais je ne l'ai pas. Donne-moi son adresse tout de suite.
Alors, j'ai un risque. On va écouter.
J'espère juste que je ne l'ai pas publié.
C'est celui-là, je vais te dire. Je vais te dire. Monsieur Marais, oui, c'est ce dernier-là. Bah, écoutez, on va se faire plaisir. On va écouter le groupe Note. Alors, il y a une flûte, une harpe, des drums, comme ça. Et j'espère que Monique va résister. Si Monique ne résistait pas, je ne sais pas ce qu'on fait. Bien. Merci, Monique. Eh oui, il y a de la flûte, de l'harpe, des drums, tout ce que vous voulez. Monique, ça va, Monique ? On a sorti le Doliprane, tout ça, mais Monique a résisté, a pu résister à plein de choses sur Onde de Choc, sur Radio Libertà 89.4. Alors, il faut assumer ses responsabilités d'éditeur, monsieur Marest. On ne fuit pas comme ça. Vous avez publié les 10 meilleurs films de tous les temps, Luc Chomara, L'invention du cinéma et preuve non corrigée. Donc ça va être corrigé ou pas ?
Ça l'a été.
Ça ne figurera plus le...
Non, ça figurera.
Bon, c'est pour moi, d'accord. Luc Chomara, et donc il y a une signature, quelque chose ?
Oui. Ce jeudi, à la librairie Nord-Est, rue de Dunkerque.
C'est où ça ?
C'est pas loin de la gare du Nord.
Ah oui, c'est où ? Je vois, d'accord.
À 19h.
D'accord, il va assumer ses responsabilités.
Il va assumer ses responsabilités. Devant tous les Romériens.
Il va être là. Oui.
Voilà.
Mais on va en discuter tous les deux. Ça va être une discussion sur le... Oui.
Les Romériens sont au courant, ils peuvent venir le...
Il parle d'Éric Rohmer dans le film, en mal, c'est ça ?
Non, en bien, mais...
Non, on va en discuter tous les deux.
J'en ai dit du mal il y a quelques minutes.
On va en parler tous les deux. Alors, parce que là, je vais te traiter, d'entremetteur, parce que... Alors, il y a deux livres, c'est Caméra Gréco de... Et autre texte de Jacques Coda, il y a les 10 meilleurs films de tous les temps et la mention du cinéma de Luc Chomara. Bon, ce sont deux tons différents. Hein.
Oui.
Malheureusement, Monsieur Coda donne dans le cru. C'est dans le cru, on est dans le cru. Et Monsieur Chomara, dans un côté beaucoup plus lisse.
Je crois que c'était dans le cul.
Et ça va vous étonner, parce que je suis quand même lecteur. Je suis un lecteur innocent et lambda, je tiens à vous le dire. Ce qui m'a étonné...
Oh, c'est vrai.
Oui, t'as remarqué. Il va me sanctifier bientôt, ça va très bien. Et ce qui m'a... C'est très bizarre. J'ai lu ces deux livres. Et il y a un point commun. Et vous savez lequel ? C'est que Monsieur... Jacques Coda, qui est très cru, Monsieur Chomara, qui se veut plus lisse, etc., ont un point commun par rapport au cinéma. Et ce n'est pas un reproche, parce que je le pense réellement. C'est la nudité. La nudité du corps. Monsieur Coda nous fait remarquer qu'à un moment donné, je ne sais plus qui, Kim Novak, n'a pas de soutien-gorge.
Jamais dans ses films.
Si. Vous me le dites, vous approuvez.
De quoi, qu'elle n'a pas de soutien-gorge?
Oui, oui.
Je regarde les films de Kim Novak.
À la fin de son livre, monsieur...
Uniquement parce qu'elle n'a pas de
soutien-gorge. Monsieur Jacques Coda, qui regarde les films d'Hitchcock parce que l'actrice n'a pas de...
Même les films
même
ne sont pas d'Hitchcock.
Même les ondes n'a pas de soutien-gorge, vous fait remarquer que quelqu'un qui n'a rien à voir... Non, n'essayez pas de vous rattraper, monsieur, par rapport à votre culture. Musidera, qui est bien plus tard, n'a pas de culotte. Bon, on peut penser que c'est l'aspect cru, l'aspect violent, l'aspect etc. Excusez-moi, monsieur Pierre, mais l'aspect obsédé de ce monsieur qui confond pornographie et cannibalisme, je veux bien. Mais monsieur Chomara, qui a un ton beaucoup plus calme, etc., nous fait remarquer la même chose. Il nous fait remarquer que le cinéma est né avec le porno. Il note que Edwige Fénès n'est pas à poil. Il nous fait remarquer qu'Hitchcock, il y a un phénomène de soutien-gorge. Et c'est flagrant. On est au cinéma, et là, c'est entre vous et moi, je ne veux pas choquer Monique, mais à un moment donné, Monsieur Coda me signe ce livre. Monsieur Coda a arrêté.
Oui,
il me dit de Jacques Coda, oui. Caméra Gréco et autres textes, oui. Ou des histoires de l'œil. Et je me suis demandé si le cinéma n'était pas en fin de compte une histoire de l'œil. Avec terriblement, vous êtes éditeur des cinémas, alors vous arrangez, c'était terriblement voyeur tout ça. Ce qu'on peut être, ce que nous sommes, ce qu'on peut être, et voilà.
Si, c'est.
Vous arrangez avec ça, vous prenez vos responsabilités.
Oui, forcément, mais pas par nature même, le cinéma est une histoire de l'œil et de.
Eppington. Tu connais le film de Michael Douglas sur le voyeurisme. Et puis c'est la phrase de Godard, je fais du cinéma pour déshabiller des filles. Moi, j'ai fait une école de cinéma, le premier film que j'ai réalisé, j'ai mis une fille à poil sur le plateau. Et je regarde uniquement le cinéma pour ces raisons-là. Voilà. Pour être clair et obsédé sexuel et conforme à ma réputation.
C'est la dernière fois que vous revenez sur la liberté.
Oui, alors,
je vais pas repartir sur tout, mais évidemment le voyeurisme, puisqu'on parlait d'Hitchcock, le voyeurisme chez Hitchcock c'est plus que présent.
Des, on va parler.
The Pleasure Garden, le jardin des plaisirs, je crois que c'est en 24 ou 26.
C'est très tôt Hitchcock. Hein.
Le voyeurisme dans ses films, oui, on voit le film commence, il y a une scène, des filles qui dansent, et il y a un long travelling sur les spectateurs qui sont tous là, enfin ils sont, il y a une femme qui s'est endormie, il y a que des hommes qui sont là avec leurs jumelles en train de sourire parce qu'ils regardent les filles à moitié dénudées. Le voyeur, bon après il y a Fenêtre sur cour, et il y a bon il y avait toute la métaphore, bon il y a aussi toute la filature, la longue filature de surfroid, de vertigo.
Pierre, je veux dire que ce voyeurisme, parce que je ne peux pas moralement recouvrir ce que Monsieur Jacques Collin, ça dépasse le corps. Un jour, j'ai fait une émission ici avec quelqu'un qui avait mis sur scène à la maison très 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 calme et très 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 morale, à la maison de la poésie. Il avait mis sur scène les 11 000 verges d'Apollinaire. Et il avait recouvert toutes ces actrices d'une espèce de truc, couleur chair. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si elles étaient nues ou pas. Et le type, je sais que vous regrettez, monsieur Godard. Et le type me dit.
Quelle déception.
Me dit à un moment donné, vous comprenez que là, dès qu'on met sur scène quelqu'un qui est nu, homme ou femme, là on va prendre les hommes, monsieur, j'ai plus rien, homme ou femme, l'œil du spectateur est troublé. C'est-à-dire que si il a une grosse poitrine, on va dire qu'il a une grosse poitrine, il a un gros sexe, on va dire qu'il a une grosse, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas réglé, nous, en tant que judéo-chrétiens, parce qu'on, notre civilisation, bien qu'il y ait plein de films porno, tout ce qu'on voudra, on n'a pas réglé, monsieur Coda. Ça va t'intéresser par rapport au nu. Le phénomène du nu, il est là.
Ah oui, tu veux dire, on n'a pas réglé quoi? L'excitation?
Oui, l'excitation.
C'est moi, quand je te dédicace l'histoire de l'œil, je fais écho aussi à Georges Bataille.
Bien sûr, hein, mais on est en plein dans Bataille.
Voilà.
On est en plein dans Bataille.
Voilà. C'est-à-dire, on est dans ce que tu...
Bien sûr, on est en plein dans Bataille.
Ouais. C'est au-delà du corps, effectivement, oui. C'est l'œil pinéal de Georges Bataille.
Bien sûr. Mais Pierre, on est loin, on n'est pas seulement dans le nu. Dans le nu, on est aussi dans un voyeurisme qui va plus loin que ça. C'est-à-dire, maintenant, on peut filmer la mort. On peut filmer la mort.
On peut filmer la mort dans quel sens
quelqu'un qui veut se suicider, il prend son appareil, il met son appareil sur la tempe, il se suicide.
Oui, de même qu'on peut filmer la nudité aussi dans ce sens-là. Par contre, oui, la montrer, parce que là, je regarde pas mal de films l'ère qu'on appelle pré-code aux États-Unis, c'est-à-dire en ce moment je suis là-dedans, les films avant le code ACE, donc avant 33-34 aux États-Unis, où on pouvait clairement filmer la nudité, on voyait souvent des bouts de seins, etc. Avant, une espèce de retour à la morale assez
très débridé.
Voilà, mais même j'ai vu un film Wonder Bar où il y a une très belle allusion à l'homosexualité. C'est vachement étonnant. Il y a un jeune couple qui danse. Un homme et une femme très jolie, il y a un jeune homme qui s'approche et qui interrompt leur danse, et la jeune femme flattée se tourne vers lui, et le jeune homme non il veut l'autre garçon, et il part, il continue la danse avec l'autre type. Et c'est très très étonnant à cette époque-là de voir l'homosexualité filmée comme ça, sans aucune moquerie, sans, c'est pas la cage aux folles quoi, c'est pas un truc camp où ça va être des personnages excessifs, c'est glissé comme ça. C'est une période très surprenante et très ouais, alors après, on peut dire si c'est...
Non, mais c'est les années 20. Moi, j'étais voir une expo hier qui s'appelle Les Pionnières au musée du Luxembourg. Il y a tout ça en peinture. Il y a déjà le mouvement Yel, c'est-à-dire des gens neutres. Claude Cahun, que tu connais peut-être.
Cahun, bien sûr.
Etc., etc. Ces années 20 sont beaucoup plus libres que ce qui va advenir par la suite.
Voilà, et même là, sur une espèce de retour qu'on a depuis quelques années,
absolument. Oui,
parce que c'est devenu beaucoup plus difficile, complexe, par rapport à ce dont tu parlais tout à l'heure, de recouvrir le corps. Je crois que dans la scène du Kechiche, la fameuse scène qui a posé tant de problèmes, etc. Il y a des prothèses sur le corps de Léa Seydoux dans le, comment il s'appelle ce film, La vie d'Adèle. Oui. Mais oui, même oui, ce corps prothésé recouvert de faux corps, etc.
A fait scandale.
C'est parce qu'aussi par, à cause de la longueur de la scène, c'est une scène de sexe.
Et Kechiche était accusé de
saphique,
tout.
De 7 minutes. Où Kechiche a été un procès extrêmement violent.
Oui. Et Pierre, je veux dire que par rapport, quand on allait au cinéma, on découvrait tout ça, les gens ont découvert tout ça. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Quand je dis qu'on peut filmer la mort, quelqu'un veut se faire...
Mais c'est plus du cinéma, là.
Alors, ça, très bien. Alors, voilà. Donc, tu es d'accord avec moi, lorsque la caméra tourne, c'est plus du cinéma.
Oui, mais c'est vrai que le mot caméra.
Vas-y.
Pris au sens large. Si le téléphone portable est une caméra, effectivement, on peut faire des films avec un téléphone portable. Mais là, on rentre dans une grammaire, dans une syntaxe, d'accord, comme tu disais tout à l'heure. Là, on rentre dans une structure cinématographique. Hein, tandis que l'autre, ce sont des images.
D'accord.
Voilà. Point barre.
Et avant. On va tomber sur Hitchcock, tout ça, on va revenir à tout ça. Souvent des gens qui sont extrêmement fins. Il y avait une émission hier sur Arte, sur un peintre qui s'appelle Toyen. Je ne sais pas si vous connaissez Toyen, qui a peint le Surrey, etc. Oui. Et elle, à la fin de sa vie, elle habitait près de la place de Clichy, au-dessus de chez André Breton. Elle passait son temps.
C'était sur Arte hier.
Oui, c'était sur Arte. Oui. Regarde-le s'il peut le récupérer. Oui. Alors regardez, dans les cinémas porno. Et moi, j'ai connu une femme qui était très fine aussi. J'en connais une autre alors qui passe leur temps à des films porno.
Moi, par exemple, c'est moi dont tu veux parler.
Tu n'es pas encore féminin.
Depuis hier,
mais c'est sur Radio Libertaire, etc. C'est sur Radio. Et il y avait, j'avais après on écoute de la musique et puis on arrive sur Hitchcock, premier juré. J'avais un ami qui s'appelait Yves Martin.
Ah oui.
Magnifique poète, magnifique
écrivain.
Un type qui avait une culture énorme sur toute la culture précieuse de la littérature 19e, etc. Magnifique. Et les hasards de la ville ont fait qu'ils l'ont fait habiter rue Barcadet, près de la place de Clichy. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait de la place de Clichy, chez lui, rue Barcadet, il connaissait tous les films porno. Et ce type qui était si fin, etc., était fasciné par ces films porno. Je ne sais pas comment, et ça, Pierre, je ne sais pas comment c'est possible. C'est-à-dire, ça, c'est l'image, c'est l'emprise de l'image. Comment ce type allait voir tous les films porno, il connaissait toutes les positions, toutes les...
C'est l'essence du cinéma, la pornographie.
On va dire bien.
Il y a ça, apparemment, 30% quand même de la bande passante au niveau mondial, de la consommation d'Internet, c'est pour les films pornographiques.
Les films du cul, je pense.
Non, mais au niveau planétaire, c'est-à-dire 30%, chaque fois que quelqu'un, il y a 30% de toutes les connexions. Donc la fascination, elle reste...
Comment tu expliques ça? Parce qu'on est quand même des gens qui avons tout libéré, on vient de 68, il y a eu des happenings, il y a eu
désir,
tout ça.
C'est la pulsion scopique, c'est ça.
Ça veut dire quoi?
C'est encore une histoire de l'œil.
Bien sûr, on est en plein dedans. Le cinéma est une histoire de l'œil.
C'est regardé par le trou de la serrure.
Bien sûr.
Il y a même une histoire très drôle sur le Monica de Bergman, qui est un film dont on a connu que des versions un peu tronquées, parce qu'il était très choquant. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se libère, mais de son mariage, de son gosse, de tout. C'est un très très beau Bergman. Et la version, la director's cut, enfin la version intégrale, on la doit au fait que Godard, un jour, sortait de chez lui, enfin, se baladait dans un sex shop ou je sais plus quoi, et a trouvé une VHS et la copie avec la Monica de Bergman en intégralité, et que les scènes qui avaient été coupées dans la version cinéma, il les a trouvées là. Et c'est grâce à cet acte, on va appeler ça, parce que plus que Godard, même quand il va au sex shop, je veux dire que c'est un acte aussi artistique, oui, évidemment.
Bien sûr.
Mais tu sais, par exemple, que les situationnistes ont détourné des films. Je sais pas si tu les connais, les journées.
Ah bah oui, évidemment, il y a la dialectique peut-elle casser des briques, etc.
Voilà. Mais t'as un film qui s'appelle Une petite culotte pour l'été, je sais pas si tu l'as vu 5 fois, je sais, ou 10 fois, mais arrête de me dire les mensonges, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un chauffeur routier qui conduit, c'est au Japon, hein. Tout ça vient après Hiroshima, après Godzilla, etc. Il n'y a pas de hasard politique là-dedans. Il vient, il conduit comme ça, et puis il fait monter des autostoppeuses, et puis il abuse d'elle, et sur quoi elle baise, sur les pensées de Marx, sur les pensées de Mao et sur les pensées de Lénine. C'est-à-dire tout ça, et l'image est là, on est en plein dans une image, quoi.
Bah, détourné, oui. Ils ont toujours adoré tous les détournements, faire avec humour, la dialectique s'est détournée, s'est prêté de la philosophie. Je crois que c'est plaqué du Kent sur des films de kung-fu. Du Kant, pardon, je suis fatigué. Sur des films de kung-fu. Mais oui, même les surréalistes, je me souviens plus ce fait divers, cette femme qui avait tué ses parents dans les années 30. Chabrol en a fait un film.
Ah oui, bien sûr, Villette-Nosière.
Voilà, les surréalistes à l'époque ont détourné. Comme elle avait fait deux photos très dénudées à l'époque, ils en ont fait une héroïne, mais ils ont aussi récupéré sa nudité pour en faire une arme à bataille pour revenir. Les deux armes de bataille, l'humour et le cul, quoi. C'est les deux armes de révolte.
Avant qu'on écoute et puis qu'on vienne sur Hitchcock et sur le livre de Luc Pomarin. Alors, effectivement, quand on entend le phénomène de l'écran, c'est un phénomène de voyeurisme. Ça ne te plaît pas?
C'est pas ça, c'est que ça demande beaucoup de réflexion.
Bien sûr, tu es sur Radio Liberté à 89.9.
Tu as introduit un point de vue moral dans cette.
Non, pas du tout. Vas-y.
Voyeurisme, c'est assez.
Alors,
c'est presque un reproche.
Qu'est-ce que tu prendrais comme mot?
Moi, je reviendrai à la pulsion scopique, tout simplement.
Tu veux, d'accord. Tu veux? Moi, je te l'accorde.
Tu m'accordes la
pulsion. Je te l'accorde, mais je te l'accorde.
Tu m'accordes ma pulsion.
Je te l'accorde entièrement.
Mon impulsion.
Voilà, tu es un pulseur scopique.
Sans répulsion.
Sans répulsion, bien sûr. Mais il y a ce besoin de voir.
L'écran, c'est une image beaucoup. Ça peut être, je sais pas, peut-être effectivement Norman Bates dans Psychose.
On va en parler.
D'accord, mais c'est une image qu'on retrouve chez Wong Kar-wai, qu'on retrouve celle du voyeur derrière la petite lorgnette. Alors chez Wong Kar-wai, ce petit trou, il ressemble. Il a beaucoup, dans In the Mood, il ressemble beaucoup à une forme vaginale, je trouve. Le voyeurisme et le cinéma, c'est un sujet extrêmement large.
Ça se regarde au cinéma, quoi.
Ouais.
Bah oui.
Je dis ça parce que quand j'ai passé mon examen, moi j'ai un diplôme de réalisateur.
Bien sûr, monsieur Codin.
Avec des grands réalisateurs qui m'ont dit au cinéma, le plus important, c'est pas l'image, c'est le son.
J'ai fait une émission. J'ai repassé une émission qu'on avait fait avec il y a quelques temps comme ça sur le phénomène de la musique en concert. On va prendre l'exemple le plus connu, c'est Léo Ferré qui se plaint, qui dit effectivement la musique n'est plus la même depuis qu'on l'a mis sur un disque. Moi, quand j'étais gosse, j'allais écouter la musique, le piano s'accordait, le violon s'accordait, le tambour s'accordait. Et dès qu'on a mis la musique sur un disque, on a perdu de sa valeur. Mais pour revenir au phénomène du voyeurisme, etc., il y avait des salles dans Paris où le public vivait le film, aussi bien des films porno que des films d'horreur. C'était à Clichy, par exemple, les gens hurlaient, etc. On parlait d'Ossang tout à l'heure. Oui, tu t'attends.
J'ai fréquenté quelques salles porno et c'était assez triste. Il n'y avait que des mecs, déjà.
C'est de la mort.
Du temps,
c'était de la mort.
Qui étaient engoncés dans leur fauteuil.
C'était de la mort.
C'est les films de Russ Meyer, des choses comme ça, où tu pensais que ça allait être assez joyeux, d'accord, parce que c'est des films qui jouent pas des pornos.
C'est l'esthétisme.
Mais justement, je m'attendais à des salles un peu joyeuses. Et d'accord. Non, c'est les gens scotchés comme s'ils étaient fascinés déjà parce qu'ils voyaient. Alors que c'est drôle,
Russ Meyer,
ou Tinto Brass, des gens comme ça.
C'est de l'érotisme. Bah, chez Tinto Brass, clairement, trucs comme Salon Kitty, pour moi, c'est un grand film.
Oui, ou La Clé. J'adore. Ouais.
Parenthèse, oui. Vite fait, pour l'écoute de la musique, j'ai rencontré vite fait Tinto Brass, magnifique. Je l'ai rencontré à Rome, il était très vieux, surprenant et magnifique, avec un cinéma magnifique.
Absolument.
On est d'accord. Pour une fois, Jacques Codin, nous sommes d'accord. Merci Monique, c'est gentil. Et après, on plonge sur les livres. Là. Et puis, c'est à vous de travailler. Sur Vertigo. Voilà.
Vertigo. Thank you.
au 01 43 71 89 40. Et ben Monique a résisté au groupe Nuta, flûte. C'est un étrange mélange. Il y a des drums, il y a une flûte et de l'harpe. Voilà, Monique a résisté. Bon, on est là pour parler de effectivement de ce qu'on fait avec une caméra, un œil du même si tu es voyeur, ça vous plaît pas, monsieur connard, c'est pas grave. On va employer ce mot-là avec tout ce qui se passe. Et puis il y a des gens qui au niveau du politique, ça nous interroge sur ce qu'on est sur l'être. En philosophie, on dirait l'être. C'est pas ce que c'est que l'être, c'est comme ça. Et c'est très étrange parce qu'il y a un type qui revient. Il y a un type, c'est Hitchcock. C'est Hitchcock qui revient, il revient chez Jacques Coda. Vous avez publié un Hitchcock, je pense, non ?
Oui, plusieurs recueils de textes d'Hitchcock.
D'accord.
Je prépare un...
Qu'est-ce qui fait qu'il revient comme ça
Pour rester dans le thème de l'émission, je publie bientôt un troisième recueil de textes d'Hitchcock. Et dedans, il y a un entretien... Enfin, plutôt le souvenir d'une rencontre entre Hitchcock et Gérard Guégan. Et Guégan est là, il y a une mini conférence de presse, il y a un prêtre, Hitchcock, Guégan. Et Hitchcock raconte que, en fait, dans chacun de ses films, chaque fois qu'il y a un plan sur un homme et une femme dans un ascenseur, je sais pas quoi, il faut imaginer que. Hors cadre, la main de la femme est sur la braguette de l'homme.
Okay. C'est un obsédé.
Que l'érotisme est chez...
Oui, mais alors que ça n'apparaît pas dans ses films. Parce que dans on en parle, Jacques, d'accord ? Alors que dans Vertigo, dont M. Coda qui va te raconter l'histoire sans... Vertigo, c'est pas ça. Ça n'est pas ça. C'est comment on est double.
Vertigo, il y a déjà...
Est-ce que quelqu'un peut raconter l'histoire ? Non ?
On peut,
oui. Mais c'est assez facile. Hein. C'est...
Il y a un soutien-gorge dans Vertigo, par exemple.
Oui, quand elle est déshabillée, quand elle se jette à l'eau et que les vêtements cessent.
Il y a une blague sur le double de... C'est-à-dire que le héros James Stewart, il vit aussi avec Mirch, une...
Oui.
Et qui dessine des soutiens-gorge, et elle veut qu'ils aient le fuselage des avions. Alors, c'est une blague à la Howard Hughes, sur Howard Hughes, je pense. Qui dessinait aussi bien les soutiens-gorge de Jane Russell que des avions.
Mais Pierre, c'est un élément. Écoutez, vite fait, j'avais une amie très belle, qui avait son amant, qui avait des soutiens-gorge, elle était très corsée, qui amène son amant voir un film de Bergman, je crois, ce style-là. Et lui, tu vois le film, et il sort du cinéma, et qu'est-ce qu'il a vu ? C'est le cul des vaches. Il a vu que ça. Et pendant un quart d'heure, une demi-heure, il parle du cul des vaches. Et ça, vous me faites l'effet de ça, c'est-à-dire que dans le film d'Hitchcock, que moi j'ai vu Vertigo, qui me paraît un dédoublement de l'être, on va en parler, Jacques, d'accord ? Un dédoublement de l'être, il y a autre chose, il n'y a pas que le soutien-gorge, il y a autre chose.
Non, mais on faisait allusion à Kim Novak qui ne porte pas de soutien-gorge.
Mais ça, je sais.
Mais c'est tout. Maintenant, l'histoire, c'est effectivement quelqu'un
vas-y,
qui...
Vas-y. Raconte l'histoire.
L'histoire, elle est simple et compliquée parce qu'on peut la voir de différentes manières. C'est un flic à la retraite, parce qu'il a des problèmes avec le vertige. Qui est un ami qui lui confie la surveillance de sa... C'est sa femme, je crois.
C'est
sa femme. Et il suit cette femme, il en tombe amoureux, évidemment, et cette femme se jette du haut d'une tour. Et donc, le temps passe, je vais très vite. Et il est persuadé d'être la cause donc, de la mort de cette pauvre femme. Et le temps passe, et il retrouve dans la rue, par hasard, la femme qu'il croyait morte, à part qu'elle est devenue brune. Et donc il va tout faire pour qu'elle ressemble à son souvenir, en gros. Voilà. Et alors et Chabrol dit, je voulais vérifier d'ailleurs, dit que toute la deuxième partie du film, Stewart et Kim Novak sont rarement dans le même plan, parce que le film se passerait uniquement dans la tête de Stewart.
J'ai entendu dire ça.
Oui. Mais en revanche, ça a vérifié, j'ai des doutes. En revanche, c'est le thème du peintre et son modèle, oui, effectivement. Hein. Oui. C'est un film de peintre, d'ailleurs, Vertigo. Hein. C'est un film d'artiste.
Tu veux rajouter quelque chose là-dessus?
Oui, de nécrophilie aussi, c'est-à-dire c'est
que toi, mais Pierre, tu vois qu'il n'y a pas que le soutien-gorge, il y a la nécrophilie. Là. Moi, c'est ce qui m'a.
Oui, c'est ce qui m'a.
Complètement.
Évidemment.
Complètement.
Il y a mille choses. C'est pour ça que le film fait autant.
C'est pas résumable d'ailleurs tellement
mais
ça.
Voilà. Effectivement, c'est Pygmalion égalaté. C'est aussi la nécrophilie. C'est l'histoire d'un type qui tombe amoureux d'une morte.
Qu'on pourrait au niveau du cinéma, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, on pourrait aimer quelqu'un qui plagie la femme aimée entièrement.
Oui, surtout que là où c'est encore plus compliqué que ça, c'est que dans toute la première partie du film, la femme, l'héroïne, dont le héros tombe amoureux, elle-même est persuadée d'être le double d'une morte. Carla Valtès, qui est...
Voilà. C'est ça, en plus, j'ai oublié
de... Donc, il y a une espèce de jeu avec la mort, l'amour et la création.
Oui, c'est une espèce des poupées russes, tu sais.
Arrête-moi, Jacques, tu connais mieux le film que moi. Est-ce qu'il n'y a pas un rendez-vous devant un tableau?
Oui, absolument.
On est dans la peinture.
Oui, on est dans la peinture. Pour moi, elle est tout le temps dans la peinture.
Il y a la peinture.
C'est la femme idéale. Elle est dans la tête de Stewart, cette gonzesse. Au-delà de l'histoire du polar, ça c'est
chouette. C'est ça qui est très beau dans le film, c'est que moi je l'ai revu dernièrement, il y a des plans de roman feuilleton. On voit James Stewart qui est là, la femme est là, on croirait un roman. Et puis là, il y a quelque chose qui a accroché tout le génie d'Hitchcock.
Les tableaux, par exemple, qui est complètement nul, c'est de la peinture pompière. C'est épouvantable, ce tableau. Il est grotesque.
Et ça marche.
Et ça passe.
Cette scène-là, c'est un... C'est bête de le dire, mais voilà. C'est un film muet. Il y a une demi-heure, c'est presque un moyen métrage muet inscrit dans le film où il n'y a pas une ligne de dialogue quasiment.
Alors qu'est-ce qui fait que moi je l'ai revu bien plus que Les Oiseaux, bien plus que etc., bien plus que ce fameux film Psychose. Ouais. Psychose, c'est le film qui me fascine le plus. Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que c'est? En fin de compte, c'est nous. C'est nous. Parce que ce qu'on regarde les oiseaux, c'est quand même une situation qui est quand même extrême. Pour des oiseaux arriver chez soi, etc. Et puis Psycho, c'est fait de même de la mer. Le mec qui se confond avec la mer, on est trop, etc. Mais là, on est en plein. On est en plein dans nous-mêmes.
Mais c'est un film où il ne fait pas des brouffes malgré tout, Hitchcock. Parce que tu dois connaître Manny Farber, qui est un type qui a écrit sur le cinéma, qui est un peintre, qui a écrit des. Et qui trouve qu'il fait deux. Il met le cinéma en deux catégories, l'éléphant blanc et les termites. Et il trouve que Vertigo, effectivement, Hitchcock, il sort du m'as-tu vu, il sort du clinquant, qui est un peu. De temps en temps, il a besoin
de. Les oiseaux,
c'est
du clinquant.
Mais bon, ça fait partie en même temps de c'est bon, peu importe. Mais là, chez Vertigo, il y a une espèce d'épure. Oui.
C'est traduit en sueur froide.
En français, c'est sueur froide.
Ouais. Et c'est une adaptation d'un bouquin de Narcisse Jacques en 37.
Oui, c'est ça.
Alors, petite parenthèse très très vite fait, et puis on revient au sujet, je suis allé voir, j'étais plus fort que moi, parce qu'il y a une attirance, et me dit pas le contraire, monsieur Jacques Codin, pour le commissaire Maigret, je suis allé voir le Maigret qui est sorti dernièrement.
De Lecomte, là.
De Lecomte.
C'est ça, avec Depardieu.
Voilà, Depardieu. Qu'on nous annonce comme un j'y vais pour le commissaire Maigret, c'est un texte qui m'intéresse. Alors, ça, c'est le phénomène de l'adaptation d'un livre par rapport au film. Ça n'a rien à voir. Alors, si les gens qui veulent aller voir le Maigret, moi je viens de dire le livre ce week-end, ça n'a strictement rien à voir.
Puis le conte, c'est pas.
Non, et puis voilà, c'est pépère, c'est bien fait, c'est tout ce qu'on voudra. Alors, il m'est arrivé, Jacques, il m'est arrivé par rapport. Et puis après, tu vas travailler un petit peu, je t'ai demandé de travailler, tu vas travailler
oui,
sur
oui,
la Liberté
oui,
89.4 au 01.
Improvisé comme les grands jazzmen.
43, 71, 89, 40. Et là, j'ai regardé la couverture de ce livre.
Regarde,
Caméra Gréco, dont tu as arboré un t-shirt maintenant et autre texte, Jacques Coda, aux éditions Marais. C'était comme ça. Il s'est passé un petit incident, quelque chose. On va revenir au début de l'émission, là. Dès qu'on commençait, les émissions en Ukraine, sur Antenne 2, il y a une dame qui apparaît le soir, qui s'appelle Dorothée Olyrique. Et cette dame apparaît, comme ça. Elle est filmée dans un hôtel. Il ne faut, faut pas qu'il y ait de lumière parce qu'on craint les bombardements.
C'est une journaliste, c'est ça ?
Journaliste. Mmh. Il ne faut pas éclairer parce qu'on craint les bombardements. C'est un hôtel assez minable, complètement minable, simplement avec une lumière, une petite lumière comme ça, et elle apparaît. Et cette dame, ça va vraiment t'intéresser, Jacques Codat, elle a un visage de Madone. On est en plein dans la peinture des Madones, comme ça, des cheveux noirs. Elle a simplement une écharpe blanche autour du cou, comme ça, et elle parle. Et, j'ai pensé à toi. Je me dis que ça aurait pu figurer exactement sur ton livre, Caméra Gréco.
On dirait une figure de la Renaissance, c'est ça que tu veux
dire. Bien sûr, voilà. Entièrement, mais pur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cinéaste ? Comment on peut faire maintenant ? Comment intervient la peinture maintenant ? La surfigurature, voilà. Qu'est-ce que ça ? Et le lendemain, extraordinaire, le même plan, on la refilme, on la remontre, même hôtel, ça peut pas être éclairé, même couloir, etc. Et cette dame, qui a un très beau visage ovale, blanc, avec ses longs cheveux noirs, et elle n'a pas dormi de la nuit. On la comprend, si elle est en Ukraine, elle a dû subir Et il y a un brusque vieillissement. Il y a un brusque vieillissement.
Sur son visage.
Sur son visage.
Oui.
Et je me disais, je pensais à toi. Hmm. Comment un peintre de la Renaissance peut saisir ce brusque...
C'est la magie de la peinture.
La magie de la peinture, bien sûr.
Parce que là, c'est pas donné comme au cinéma. La différence entre la peinture et le cinéma, c'est que la lumière, le visage de cette dame sont donnés au cinéma. À la peinture, c'est ex nihilo. Il faut que le peintre sorte ça de son cerveau et de sa main. Donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées. C'est pour ça que la peinture est devenue abstraite. Tu sais que j'adore la peinture abstraite, comme tu me le faisais souligner la dernière fois.
Je fais une parenthèse pour Pierre, monsieur Codat s'est étalé lamentablement au micro par rapport à la peinture abstraite. Il n'y a pas longtemps.
Pas du tout, je déteste la peinture abstraite. C'est
d'accord.
Tout.
Vas-y.
J'adore le dire parce que je sais que ça choque beaucoup de gens. D'accord. En plus, comme c'est pas vrai, c'est encore plus jouissif. Bon, je ne sais plus où j'en étais. Oui, la peinture est devenue abstraite quand la photographie est née, évidemment, parce qu'on ne peut pas lutter contre ces appareils qui enregistrent l'image en un clin d'œil.
Mais toi qui fais des visages, qu'est-ce que tu fais alors?
Moi, j'essaye de lutter contre le cinéma, justement. C'est mon combat.
Toi qui es cinéaste au départ.
Voilà, c'est ça. J'ai les deux casquettes. C'est pour ça que mon livre aussi est à cheval sur les deux choses. Et c'est pour ça que je parle de vertigo aussi souvent dans Caméra Gréco, parce que c'est un film qui traite du rapport de la peinture et du cinéma, essentiellement. Ce que dit Deleuze, là, page 44.
On va le lire, je vais te le lire. Voilà. Tu trouves que c'est bien traduit, vertigo et sueur froide, ou pas ?
Moi, je préfère vertigo.
Mais bien sûr, non,
évidemment.
Non, Pierre.
Je suis tout le monde.
C'est absurde, non ?
L'histoire, il faudrait écrire un livre sur l'histoire des sous-titres, effectivement.
Des traductions.
Des traductions.
Il y a des choses qui...
Il y a même un livre sur... Un Jim Thompson.
1275.
Voilà, il y a un type qui a écrit un bouquin sur l'âme manquante.
Jean-Bernard Pouy qui était là la dernière fois.
Ah oui,
oui, on l'a vu là. C'est pas traduit comme ça. Comment c'est traduit par Tavernier?
Alors, Tavernier, en tout cas, Thompson, c'est 1049 aux États-Unis.
Il manque trois âmes, je crois.
Ah, chez Tavernier, non, c'est.
C'est comment ça s'appelle avec Tavernier là.
Oui, non, mais c'est le coup de torchon.
C'est coup de torchon, c'est ça.
Oui.
Petite parenthèse, alors, excusez-moi, et puis après je vais lire, malheureusement, il faut que je dise Monsieur Codat.
Je vais le faire, je tiens à assumer.
Yves Martin, dont je parlais tout à l'heure, là, était un ami au départ de Tavernier, et si tu peux me corriger, tu me corriges, n'hésite pas. Ils ont fondé ensemble la revue Néon. Ça te dit quelque chose, la revue Néon, non ?
Alors, la revue Néon, non.
C'est une revue des années 60 sur le cinéma. Sur le cinéma.
C'est
donc
l'époque où il y avait déjà les cahiers présence du cinéma et grand, positif.
Voilà.
Alors, Néon, non.
Je pense que c'est la revue Néon. Hein.
Tavernier, il tapait un peu partout. Il pouvait écrire à présence, comme cahier.
Je pense que c'est la revue. Il faut voir.
Ça, je peux pas dire.
Au départ, la signature d'Yves Martin, et puis après, qui est parti. Mais si jamais tu peux trouver ce livre, Les Rois Ambulants, c'est ce qu'il a, c'est ça, Déambulation, dans tous les cinémas porno de la capitale.
Je crois, là, il n'était pas libraire, Martin.
Non, non, mais
c'est une espèce de grand géant là, de
un grand géant. Vite fait, puisqu'on arrive au texte. Ouais. C'est magnifique parce que Yves Martin mesurait 1m90.
Oui, c'est ça.
Voilà, il déambulait dans Paris, ouais. Il est avec sa mère et il avait un boulot chez un notaire. Et comme il tapait une lettre tous les, il arrivait à taper une lettre tous les trois mois. Il faisait le rôle de ce qu'on appelle un saute-ruisseau, tu vois. Il portait les plis de notaire en notaire. Alors que c'est un poète fabuleux, tu vois.
Oui.
Voilà, c'est un poète fabuleux.
Que j'ai
voilà.
Beaucoup
donc il a écrit c'est les rois ambulants. Ça doit être, je sais plus. Où cherche les rois ambulants. Chez Yves Martin. Tu vas travailler. C'était pas là pour ça. Monique, t'attends au tournant là. Alors,
pauvre Monique, je sais que vous êtes innocente, Monique.
Alors, tu as fait un parallèle entre Gréco et Hitchcock.
Oui,
dans tu dis un cinéma de voyants, a dit Deleuze. Gréco, Hitchcock, ces deux voyants ont un autre point commun. Ils se situent à la charnière de l'ancien et du nouveau, au point de rupture du maniérisme pour le premier, qui pulvérise pour une manière qui n'appartient qu'à lui, et de l'image mouvement pour le second, qu'il fait glisser vers l'innovante image-temps. Deleuze, on ouvre les parenthèses, les guillemets. L'image-temps n'est pas au présent, pas plus qu'elle n'est souvenir. Elle rompt avec la succession empirique et avec la mémoire psychologique pour s'élever à un ordre ou à une série de temps. Vertigo s'élève jusqu'à l'objectivation du regard, celui de Scotty, c'est le héros, hein, qui lui est dérobé par lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire bon, d'une part, bon, le maniérisme, tu connais, c'est cette époque où les gens se sont un peu rebellés, les peintres, quand je dis les peintres, contre l'harmonie de la peinture de la Renaissance. Hein. Ce sont des gens comme Pontormo, comme Tintoret, comme. Bon. Et dont le Gréco fait partie, c'est-à-dire qu'on commence à voir et à montrer la manière de peindre. Et à distordre les corps. Hein. On est bientôt dans la contre-réforme et dans le baroque. Bon, et cette distorsion, elle est poussée à fond par le Gréco, comme elle est poussée à fond par Hitchcock dans son film Vertigo, avec la distinction que fait Deleuze. J'ai lu le bouquin qu'a publié Pierre-Julien Marest, Les Mémoires de Jacques Aumont. Il se marre un peu, il rigole un peu en évoquant les livres de Deleuze, L'image mouvement et l'image temps, où il dit qu'effectivement, effectivement, quand ces livres ont paru, tout le monde a embrayé derrière, c'est génial et tout. Et bon, il dit que personne n'y comprenait grand-chose. Et d'autre part, il ajoute que Deleuze il pataugeait aussi copieusement dans ses concepts. Mais bon, c'est ce qui n'est pas faux. Bon, ce qui se passe, c'est que l'expression qu'emploie Deleuze qui est forte, c'est le temps sort de ses gonds, pour parler de l'image-temps. Et c'est vrai qu'avec Hitchcock, comme avec les corps, du Gréco, le temps sort de ses gonds, parce que bon, la peinture n'est pas qu'une image, c'est aussi une histoire de temps, comme c'est évoqué superbement par monsieur Alfred.
Eh ben, pour une fois, tu as été convaincant, Jacques Codin. C'est parfait. Non, c'est très bien. Non, mais
je t'en prie.
Très bien. Donc, c'est Caméra Gréco. C'est pas un livre facile, je tiens à le dire, Pierre.
Qui sera présenté.
Mais pourquoi dire ça ? Pourquoi le dire ?
Tu veux savoir ? Parce que j'ai fait une première émission par rapport à. Avec Jacques la dernière fois, et quelqu'un voulait lire ce livre. Quelqu'un qui était assez au premier pas de la lecture. Et je lui dis attention, c'est pas un livre facile. Quelqu'un livre en ligne, je sais pas le résultat. Maintenant, on va revenir tous les deux. On s'est promis, il nous reste 10 minutes. On y va ?
Oui.
Hein ? Sur le livre, les 10 meilleurs films de tous les temps, l'invention du cinéma, épreuve non. Alors maintenant, l'épreuve va être corrigée et ça se passe. C'est quand la signature ? Tu me répètes ?
C'est ce jeudi à la librairie Nord-Est, rue de Dunkerque à Paris.
Alors, j'ai lu ce livre. Tu l'as lu aussi, j'espère, en tant qu'éditeur.
Hein. Ah, on sait jamais. Celui-là, je sais plus, probablement.
Et Jamy, il nous balade, il emploie ce ton, on ne sait pas où il est. Il y a une neutralité. On n'est pas d'accord, on ne sera pas d'accord. Il y a une neutralité du ton, je suis son histoire. Outre les phénomènes, il y a un historique du cinéma qui me semble assez sérieux. Hein. Il y a les frères Lumière, il y a Edison, puis il y a le fameux Le Prince, le langage des gens. Et je me dis où il en est. Où il en est, avec quoi il joue. Il y a, contrairement, c'est l'anti-Jacques Codin. L'anti-Jacques Codin, Jacques est dans la matière, dans l'affirmation, dans tout ça. Des fois, il fait du tam-tam sur la table, mais il s'est bien pris, il s'est bien tenu aujourd'hui.
Pas aujourd'hui.
Il ne commençait pas. Et là, on est dans une littérature assez neutre, en fin de compte. Tu es d'accord avec moi ou pas? Plus on progresse, vas-y.
Oui, alors c'est un style très cut, enfin très. Ouais. C'est il coupe au maximum. C'est plus dans la confrontation, dans l'humour qui est dans partout, dans sa manière de jouer avec l'histoire, avec. Et de dire dès la première page, enfin d'inventer une conversation entre les Lumières qui ont à peine inventé le cinéma, qu'ils en sont à se demander s'ils vont pas inventer le porno aussi tout de suite. Et puis l'autre lui fait non, on va attendre un peu. Enfin voilà, c'est
parenthèse. Tu sais qu'il y avait un musée de l'érotisme, place de Clichy, je sais pas, tu le connais, Jacques,
oui,
place de Clichy.
Il y avait des films
de 1910, 1920, avec des toutes petites mises en scène comme tous les films porno. Et on voyait des mecs qui arrivaient avec leur orgnon, leur fixe chaussette, et qui entreprenaient les dames qui n'avaient pas les mêmes plastiques qu'aujourd'hui. Hein.
Ah oui. Le cinéma pornographique est né extrêmement tôt.
Et je veux dire que là-dedans, il joue comme ça, et à un moment donné, tu peux lui répéter sans aucun problème, je me dis, est-ce qu'il avoue ou est-ce qu'il n'avoue pas? Tu vas voir où je vais en arriver. Est-ce qu'il avoue ou pas? Et à la fin de son livre, là, les 10 meilleurs films de tous les temps, il avoue, il se défend d'être un cinéphile, ce qu'il est. Vas-y.
Il se défend d'être un cinéphile, ce qu'il est. Je suis d'accord.
Il se défend d'être aussi un critique.
Ce qu'il est.
Mais là, Monsieur Pierre-Julien Marès, nous sommes d'accord pour l'instant. Et je me dis, est-ce qu'il casse le morceau? Il va casser le morceau. Est-ce qu'il a eu... Voilà, le suspense dure, on va faire le... Est-ce qu'il a eu raison? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis un dandy. Oui, alors on va pas être d'accord. Je suis un dandy, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que le principe du dandy? C'est qu'il s'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie? Je bouffe de l'image. Et c'est là que par rapport aux consciences, par rapport à ce qu'on est, et par rapport, etc. Est-ce qu'il aime plus Ozu que la 7e compagnie? Est-ce qu'il aime plus la... je sais pas moi, Hitchcock que le... Je sais pas, que le gendarme de Saint-Tropez.
Je suis persuadé que...
Vas-y.
Qu'il prend autant de plaisir à regarder... Alors, autant de plaisir, je sais pas, à regarder Ozu que le gendarme de Saint-Tropez, mais qui ne boude pas son plaisir devant le gendarme de Saint-Tropez, et qui dit juste, ce sont deux plaisirs de nature très différentes. Ce qui l'amuse, c'est de mettre sur une forme de pied d'égalité Ozu et le gendarme de Saint-Tropez. Ça l'amuse. Est-ce que c'est du dandysme ou moi, je pense qu'il est trop dandy pour dire qu'il est dandy, donc il le dit. Est-ce que les dandys sont des punks et les punks des dandys, sans doute, c'est un punk et un dandy, ou un dandy punk. Enfin, il s'amuse dans ces deux livres. L'invention du cinéma, c'est le préquel des 10 meilleurs films de tous les temps.
Le dandy est véritablement solitaire. Son désespoir est réel et de toujours constater combien la pensée autour de lui est grégère. C'est au point que si les autres se rallient à son opinion, il en change immédiatement. On peut parler à son sujet de solitude ontologique absolument sans remède. Là, il avoue ce qu'il est et juste avant, il dit que, si d'aventure le dandy aime la même chose que son voisin, c'est pour des raisons différentes, voire diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'il mange de l'image. Le sujet de cette émission, c'était manger par l'image, manger de l'image ou être mangé par elle. Il bouffe de l'image, il s'emmerde, il va voir une toile.
Les gendarmes, je pense pas de Saint-Tropez, je pense pas qu'il aille exprès au cinéma pour les voir. Par contre, Tarkovsky va au cinéma pour les voir. C'est-à-dire qu'il consomme.
Il consomme, mais on sait que ça existe.
Voilà, mais il va plus consommer, mais quand il va au cinéma et qu'il raconte son expérience de salle, Tarkovsky, qu'il en peut plus, qu'il a envie de crever plutôt que subir plus longtemps ce plan, et que pile au moment où il veut sortir de la salle, Tarkovsky coupe le plan, et c'est là qu'il comprend tout le génie de Tarkovsky.
Tu connais cette image de, je crois, c'est Cronenberg, tu me corriges, tu connais mieux le sujet que moi, où il y a ces vidéodromes où il y a une main qui sort de l'écran et qui ramasse le type, qui met dans l'écran. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il n'est pas prêt à avoir toutes les images? Moi, je veux dire que comme c'est un... J'emploie les mots entre guillemets. C'est quand même un écrivain, un intellectuel. Hein. Mais il sait très bien qu'il y a un phénomène de valeur entre Orson Welles et Jean-Bernard à Saint-Tropez.
Ils sont joués, mais c'est en même temps... Je suis à 1000% sur sa longueur d'onde. C'est-à-dire que c'est aussi un doigt d'honneur fait à un certain snobisme de gens qui nous ont... Enfin, il y a toujours cette phrase moi, de Douchet que j'adore. Alors, c'est un autre truc, mais qui dit que celui qui préférerait aller voir un Mizoguchi, qui aurait qu'une seule chance de voir un Mizoguchi rarissime, ça serait sa seule chance de le voir, et qui aurait le choix entre ça et un très très bon repas, qui choisirait d'aller voir Mizoguchi au détriment du bon repas, il n'aurait rien compris au cinéma. Je suis assez d'accord avec ça.
D'accord. Mais, Pierre. Tu sais très bien, je sais très bien, parce que je crois qu'il en parle quelque part, je sais pas, tu me corrigeras après, tu sais très bien que, par exemple, en 45, il y a Hiroshima qui éclate, qu'est-ce qui va naître comme cinéma? Ça va être Godzilla.
Alors, thématiquement, c'est Godzilla, le monstre est créé dans l'imaginaire par les mutations, les mutations. Mais enfin, dans la fiction, et avant d'être un film, je me demande s'il n'y a pas une.
Oui, mais tous les films de Godzilla apparaissent.
S'il n'y a pas un manga ou. Enfin, c'est pas. On peut pas en dire. C'est, oui, la question des mutations inquiète à cause de Hiroshima, et ça amène dans l'imagination Godzilla. Voilà, mais aussi dans le cinéma américain aussi.
Dans son livre, et tu lui diras ça, on a l'impression que c'est en dehors de toute influence. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire que c'est en dehors de... Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il y a un mec qui menace du phénomène du nucléaire? Qu'est-ce qui va se passer comme cinéma? Qu'est-ce qui va se passer comme imaginaire, alors que l'image a été poussée à son maximum?
Je ne sais pas si l'image a été poussée à son maximum.
Je ne sais pas. Moi non plus, mais c'est ce qui m'a intéressé.
Alors, Gis, l'image, elle va pas devant, elle va avec. Hein. Mm-hmm. Donc, elle n'est jamais poussée à son maximum, en fin de compte. Elle accompagne la réalité. Quelquefois, elle l'advance. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer?
Bon, enfin, c'est ça que j'ai tiré, tu lui diras si jamais tu vas. C'est-à-dire, c'est le dandy qui se promène, et je crois que son livre finit comme ça, j'aime ça. Il pleut, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On va voir une toile. Et on se bouffe de l'image, et même si on n'approuve pas la 7e compagnie, tu la connais? Bon, si, je la connais. Ouais, c'est magnifique. Voilà, Monique a tous les DVD de la cinquième compagnie. Si, chez elle.
Avec Robert Lamoureux, c'est ça.
Voilà, c'était très bien. D'accord. Avec Robert Lamoureux, qui était un mec d'extrême droite,
Ah bon?
Oui, bien sûr.
Bon,
c'était un plaisir de vous avoir. On rappelle les deux livres qui vont sortir. Tu rappelles quand on peut voir le nommé Luc Chomara, les 10 meilleurs films de tous les temps, l'invention du cinéma. Et puis, cinéma gréco et autres
qui,
thèmes,
qui sera présenté au festival du quartier du livre au mois de juin à la mairie du 5e, caméra gréco.
Tu me le rappelleras ça.
Avant-hier.
On ira tout. Et puis on remercie bien sûr Monique.
Monique.
Voilà, générique, mais c'était un plaisir.
Je n'ai pas
Monique.
Tapé sur la table.
Non, par contre, monsieur Pierre-François. Pierre-Julien Marès. Merci Monique.
Elle est partie.
La famille s'éclate et s'étend comme une fleur. Elle voudrait pourtant garder son parfum. Mais tout le monde s'en va, les frères et les sœurs. On trace la route et c'est lendemain. Moi je voulais partir vers d'autres danseurs, ouvrir un bordel au Tibet. Mais que voulez-vous, faudrait que je me lance. En attendant, je travaille au taquet. Je pourrais rentrer chez ma mère pendant qu'il est encore temps. Rentrer chez maman et peut-être bien qu'elle attend. Rentrer chez ma mère pendant qu'il est encore temps. Rentrer chez maman et peut-être bien qu'elle attend. Dibidabdi papap doudou. Dabadi babab duru, dabalaram laram laram de bam 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 bam. Une jeune fille m'épate, moi je m'y prends comme un leurre. Elle est passionnée et j'adore son parfum. Elle me parle d'amour et me montre trace en cœur. J'ai tracé une route et je la prends par la main. Elle voudra que je lui montre toutes nos danses, que je lui ouvre la porte de chez papa, maman. Mais que voulez-vous, voilà une fois de plus que je me lance. En attendant, je lui dis bien gentiment, mais bien gentiment, je lui dis allez, rentre donc chez ta mère pendant qu'il est encore temps. Rentre donc chez maman et peut-être bien qu'elle attend. Rentre donc chez ta mère pendant qu'il est encore temps. Rentre donc chez maman et peut-être bien qu'elle attend. Dibirab di babab du lou, daba di babab du lou, daba la ram da ram da ram de nam dam 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 ba. Ma famille s'éclate et s'épanouit comme une fleur. On est tous devenus amateurs de parfums. Et ils partiront, ouais, les frères comme les sœurs, découvrir des routes et de faire leur destin. On pourra mêler toutes nos danses, ouvrir un bordel au Tibet. Vous direz sans doute qu'on a de la chance. En attendant, on vous dit bien gentiment, mais bien gentiment, allez rentrer chez vos mères pendant qu'il est encore temps. Rentrez chez maman et peut-être bien qu'elle attend. Rentrez chez vos mères pendant qu'il est encore temps. Rentrez chez maman et peut-être bien qu'elle attend. Dibirab di babab du lou, dabali babab du lou, dabalalam dabalam dabalam de bam 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 bam. انت هو الغروم انت هو الابد انت هو النظام انت هو السبب سميتك للزمن سميتك للزمن سميتك تاني ادور دور انت هو شوقي انت هو الصديق انت هو القانون انت هو نفسي سميتك للشاهين سميتك للشاهين سميتك تاني دور 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 ربما ربما راني ودام إليك ودام إليك يا بنت الظلم انت هو شوقي انت هو الأقبار انت هو أسفار انت هو الدروب سميتك للزمن سميتك للزمن سميتك تاني دور 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 ونفسي هيك
when Epsi Lake event last fall. Te hua Shawqi, te hua Akbar, te hua Sukra, te hua Akhtar. وطاحت الظلوم, وطاحت الظلوم, وطاحت التين. شور أدور أدور الصباح له مكتوب في أي جراح بان البستان الصباح له تفهم بالتحقيق هذا سعدها ما صبحة تريق إذا كانك تشعن الطول بوقت صالي يا وندرشي وقتش الحق بعد ما كنت يعشرني ويصدقني يعشرني ويصدقني باسم الحلالي ما يكون ترقي يغسلي أنا نساعدك بدراقة وحسان يا نور الأعيان لازم نشي نصبر يغسل البستان ما يكون اللبخة ترقي يغسلي أنا نساعدك بدراقة وحسان يا نور الأعيان لازم نشي نصبر يغسل البستان كنت لاهي في مراسمك كل عشية شايفك عمرتني لبكان ماني شي غلطان ما بقى غير وصيفك في عقلي دهشان الهوى قوي بحرق والوقت صعيب زاد لك والقدرات زيان تظهر قطرقة قادر تسفع عينيتك يغسل الأوطان وان افكرك متني سيدي موالفك عندي في كمان بهنا يا وشا زي خطرين واجبك بكلامي بيان لونك اصمر تعفق والخناك يدولمك وهي وزن المال مالك غضبان وجه ساعة نشورك بدبارة ميزان ما يكون إلا بخاطرك يغسلي أنا نساعفك بدراقة وحسان يا نور الأعيان لازم نشي نصبرك يغسل البستان ما يكون إلا بخاطرك يغسلي أنا نساعفك بدراقة وحسان يا نور الأعيان لازم نشي نصبرك يغسل البستان
ساعة منزلك قدام الجيران بالمبسم رقيان واستر باقي صوتك قدرة الرحمن لا تسمن كون ألمك تخلف اللي راح لك من بعد الأحزان أفتح السيزان نور عليك نفرحك غيرت الأديان On se bouscule, on s'agglutine, place bouche lourde. L'Europe ne semble pas si loin. Les singes prennent des vitamines, place bouche lourde, des rondes se forment à 19h20. Je respire, je suis vivant. Je respire, je suis vivant. La direction se réserve le droit d'admission, place Bouchelot. La direction donne ses autorisations. La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d'un mouton. Alors je respire, je suis vivant. Je respire. J'examine, je m'achemine, je joue des coudes vers Dieu qui n'est jamais bien loin. Je demande l'asile, miséricorde, je connais bien le barreau de quant à mon sang. Je le transpire, je le vaux bien, ma peau est chère. I speak English, very, very, very good. J'accepte le label français, moitié terrien, moitié algérien. La rumeur flotte, elle me dégage, me laisse à bout de bougeloude, à bout de cœur, bête sans chair. Je me rends lointain qui respire. Le lointain qui est vivant. Le lointain qui respire. Le lointain qui est vivant. On repart bredouille, on se débile, on quitte bouche lourde. Certains au paradis, d'autres se contentent de rien. Le sergent serpent siffle aux orphelines. Bout de bouche, l'eau y reviendra. 19h20, alors on respire. On est vivant. On respire. On est vivant. Do
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Donc, après la voix charmeuse, Monique, Serge au micro et Nicolas va nous rejoindre bientôt. Voilà, donc vous savez qu'on a un certain nombre de rubriques. Aujourd'hui, l'émission, c'est dans le cadre de la rubrique Terre et Radioactivité, une rubrique qui est très particulière puisqu'elle est censée durer des centaines de milliers d'années. Bon, j'espère qu'on va tenir le coup jusque-là. Voilà, donc ceux qui nous écoutent habituellement savent qu'on a fait beaucoup d'émissions et on en fera encore beaucoup sur ce thème qui est vraiment essentiel. Donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, nous recevons Ange Potin, qui a sorti très récemment un livre, Le nucléaire imaginé, avec un sous-titre, Le rêve du capitalisme sans la Terre, et c'est aux éditions La Découverte, je crois que c'est sorti très récemment. Hein. Donc avant d'entrer dans le livre, c'est ce qui nous intéresse doublement, c'est de savoir comment tu as été amené à t'intéresser au nucléaire. Étant donné que ton jeune âge, on a plutôt tendance à voir une partie des jeunes générations s'intéresser plutôt au nucléaire, énergie verte et tout ça. Bon, je schématise un peu, heureusement, la preuve. Enfin, dans ton cas particulier, comment tu t'es intéressé au nucléaire ?
Merci. Bah, et puis merci de m'avoir invité à cette émission. Le point de départ de ce bouquin-là, c'est une recherche de thèse. Mmh. J'étais en philosophie, je faisais des études de philo et d'histoire des sciences. Mmh. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire mes recherches sur un sujet. À la fois, je voulais bosser sur un sujet qui touchait à la technique et aux techniques industrielles, dans la mesure où la philo et l'histoire des sciences aussi, dans une moindre mesure, ont bizarrement délaissé ces questions-là s'y sont pas énormément intéressés, quoi. Et par ailleurs, j'avais envie de travailler sur un sujet qui a des implications politiques qui me permettaient de me sentir plus investi dans mon objet, quoi. Mmh. C'était le contexte. Moi, j'ai commencé, si tu parles en termes de génération, moi, j'ai commencé à faire cette thèse, c'était juste après le mouvement contre la loi travail de 2016. Donc moi, on va dire, d'un point de vue de mon identité politique, je suis assez marqué par... je me suis surtout politisé à ce moment-là, quoi, de 2016. Et donc, ça m'a amené à... Et étant donné que je me posais ces questions-là en France, qui est un pays qui a un rapport très particulier à l'énergie nucléaire, ça m'a amené là-dessus. Et c'est aussi ensuite un parcours académique. En fait, je suis tombé sur un livre, au moment où je montais mon projet de thèse en toute hâte, je suis tombé sur un livre de l'historienne américaine Gabrielle Hecht, Le rayonnement de la France, que j'ai trouvé fantastique, quoi. Et ça fait partie des choses qui m'ont amené là-dessus, sur le... question nucléaire. Ensuite, j'ai consacré...
Bon, sans rentrer dans le détail du travail de la thèse, bon, la thèse, c'est quand même quelque chose qui correspond à un travail suivi, donc je suppose que tu as à la fois lu des choses et aussi tu as peut-être rencontré des gens dans le domaine. C'est comme ça que tu as pu travailler, je suppose.
Oui, oui. C'est ça. J'ai, en fait, la manière dont j'ai travaillé, en fait, j'ai adopté une